Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Alors notre objectif chaque semaine, vous le connaissez maintenant, vous redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va parler énergie. Comment réduire notre consommation électrique? Mais vraiment réduire, hein, pour faire baisser la facture à la fin du mois. Quels sont les gestes qui marchent réellement? On va tout vous dire avec notre invité. Bonjour Florence Clément.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la mobilisation grand public à l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. On va entrer sans attendre dans le sujet avec une question précise d'une auditrice.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'habite à Avignon et j'ai entendu dire que nos appareils en veille pèseraient jusqu'à 10% de notre facture électrique, ce qui me paraît énorme. Est-ce que c'est vrai?
Alors Florence Clément, est-ce que c'est vrai que nos appareils en veille pèsent jusqu'à 10% de notre facture? Ça me paraît énorme.
Alors c'est de la facture, ça peut aller jusqu'à 10%, mais c'est de la facture hors chauffage et hors électricité consommée pour l'eau chaude. Hein. Donc c'est vraiment que sur de l'électricité qui va toucher les appareils électriques de la maison. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup des appareils en veille.
C'est incroyable, incroyable. Donc ça pèse, pourquoi? Parce que ça continue de consommer de l'énergie en fait quand on s'en sert pas.
Parce que ces appareils, ils fonctionnent en permanence finalement. Une télé connectée fonctionne en permanence. Vous avez votre micro-ondes qui vous indique l'heure. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'heure. Vous avez la machine expresso aussi qui est tout le temps sous tension. Des ordinateurs quand ils ne sont pas complètement éteints. Les consoles de jeux. Tous ces appareils ont des veilles intégrées. Et finalement, ils sont en fonctionnement, même quand vous les pensez éteints, ils continuent à consommer un petit peu d'électricité et ils finissent par consommer 24 heures sur 24.
Là, je suis en train de penser, quand vous dites ça, je pense à la prise pour l'iPhone, le chargeur qui reste branché, ça tourne un tout petit peu, c'est minime, mais c'est toujours un petit peu qui circule. La box Internet, on s'en sert pas la nuit.
Alors, la box, on s'en sert pas la nuit.
Pourtant, elle tourne et elle consomme.
Il y a beaucoup de choses, en fait, dont on se sert très peu.
Qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors justement, il y a une solution qui est très simple, c'est que ces appareils qui sont en veille systématiquement, bah vous pouvez les mettre sur une prise à interrupteur. Donc vous éteignez la prise avec le bouton, hein, et comme ça vous êtes certain qu'il n'y a plus aucune consommation dans votre appareil. Une télé aujourd'hui, c'est difficile de supprimer si on l'a pas mise, de supprimer la tension si on l'a pas mise sur une prise à interrupteur. Vous pouvez plus l'éteindre complètement comme c'était le cas de nos vieilles télés. Tous ces appareils, en fait, c'est beaucoup plus simple de les brancher sur une prise à interrupteur que d'essayer de les débrancher un à un de la prise.
Et parfois, on en a des prises interrupteurs qui traînent. Alors là, on vient d'économiser quoi? Une centaine d'euros facile, hein, sur l'année, non?
Alors, on considère que ça peut être jusqu'à 100 €.
Bon, voilà. Allez, ben on les prend. On va commencer cette émission par tous les petits gestes qui peuvent avoir de réels impacts sur notre facture. On parlera chauffage et équipement dans un second temps, parce que c'est vrai que tout ce qui chauffe à la maison, forcément, ça consomme énormément. Florence Clément, pouvez-vous nous rappeler ce qui consomme le plus dans une maison, donc en dehors du chauffage et du chauffe-eau, pour commencer?
Alors, ce qui va consommer le plus, c'est le froid. Parce que finalement, ce sont des appareils qu'on ne peut jamais éteindre, qui sont en fonctionnement en permanence. Et on a une petite tendance à aimer beaucoup stocker. Donc en fait, on prend des très grands réfrigérateurs combinés. Voilà, c'est ce qui va consommer le plus. Le réfrigérateur combiné qui a le congélateur intégré, en fait, consomme beaucoup. Ensuite, vous avez les autres appareils congélateurs. Parfois, on a des très grands congélateurs chez soi. Ensuite, les réfrigérateurs qui sont là simples, hein, sans être combinés, continuent aussi à consommer pas mal. Et voilà, c'est le froid qui est vraiment le poste le premier de consommation hors chauffage et eau chaude.
Moi, je pensais aussi au lave-linge. Alors, j'imagine le sèche-linge, ça consomme beaucoup.
Le sèche-linge, beaucoup. Ça, la cave à vin aussi.
Ok.
Le lave-linge, pas tellement, figurez-vous.
D'accord, ok.
Mais oui, c'est pas le plus gros consommateur, finalement. Mais par exemple, le lave-vaisselle, oui, parce qu'il va chauffer l'eau très très chaude, parfois, dans des programmes pour bien nettoyer la vaisselle. On va monter la température très très haute, et là, vous allez consommer beaucoup d'énergie.
Quand c'est le moment de changer d'appareil, on va voir aussi qu'il peut y avoir des solutions pour vraiment réduire la consommation sur le long terme. Ça, c'est un sujet dont on va parler, mais avant ça, les programmes éco, on les connaît tous, on en a donc sur le lave-linge notamment, le lave-vaisselle. Alors, moi, je mets en éco parce que je me dis que c'est mieux, mais est-ce que ça marche vraiment?
Ça marche vraiment.
Okay.
Par exemple, sur le lave-vaisselle, votre programme éco, par rapport à un programme intensif, ça vous fait gagner 45% d'économie. Vous économisez 45% voilà, de votre électricité si vous choisissez le programme éco et pas le programme intensif. Donc oui, ça fonctionne. Alors, il y a une petite chose aussi qui est à savoir, et ça, j'ai souvent cette question. On pense que les programmes courts sont plus économes.
Oui, c'est vrai, on se dit 60 minutes, allez hop, c'est plié.
Même certains programmes de 30 minutes, on se dit c'est plus économe. Sur le lave-vaisselle, c'est juste l'inverse. Parce que pour laver très vite, vous allez avoir besoin d'une eau très chaude. Il faut que la saleté se décolle très rapidement des assiettes, des couverts, etc. Et donc, en fait, c'est parce que l'eau est très, très chaude que ça va se décoller rapidement. Donc, au final, le programme court, il va nécessiter beaucoup plus d'électricité pour monter l'eau en température. Et donc, vous consommez bien plus avec un programme très rapide qu'avec le programme éco qui est plus long.
Ce qui n'est pas évident quand on parle d'électricité, c'est que c'est une multitude de petits gestes qui fait la différence. Hein. C'est vrai, c'est pas voilà, le programme éco, pas éco. Si on fait que ça, on va économiser peut-être 1 euro, 2 euros sur l'année. Enfin, oui. Mais c'est quand on les cumule tous. Et ça, il faut bien le comprendre, chères auditrices et chers auditeurs, parce que c'est l'accumulation de ces gestes qui compte vraiment. Un mot, Florence Clément, sur l'entretien. Vous venez de nous dire, le réfrigérateur, ça peut peser beaucoup. Alors, on le sait, on nous dit souvent, il faut dégivrer, alors notamment le congélateur, etc. C'est vrai, ça marche vraiment. Le pas le coller au mur, le frigo, enfin moi j'ai entendu plein de trucs là-dessus.
C'est vrai qu'il faut essayer de maintenir les appareils dans le meilleur fonctionnement possible. Le détartrage, ça compte également. Un lave-linge, ça se détartre. On a tendance à penser à détartrer sa bouilloire, des choses comme ça, mais en fait on ne pense pas à ces appareils électriques qui finissent, les résistances finissent par s'entartrer aussi. Donc pour que votre appareil fonctionne bien, il faut le détartrer de temps en temps. Un lave-linge, par exemple, on le détartre tous les 6 mois.
Donc là, on met un litre de vinaigre blanc quoi,
dans la machine. Un litre, non, peut-être pas, mais...
Okay. Un peu de vinaigre blanc dans la machine et on fait tourner une fois à vide pour que ça nettoie.
Exactement, on fait tourner à haute température, avec un peu de vinaigre blanc, une fois, tous les 6 mois, un programme. Alors, profitez-en pour mettre quelques torchons, des choses comme ça, pour pas laver à vide. Mais en tout cas, ne le remplissez pas trop. Faites bien ce détartrage, une fois tous les 6 mois, et votre appareil va bien mieux fonctionner.
Ça, c'est vraiment bon à savoir. Et parfois, on le change, cet appareil. Alors, la semaine dernière, on avait à votre place Donatien Drilon qui nous a parlé réparation pendant 20 minutes. Et on peut faire durer le plus longtemps possible l'appareil, puis à un moment donné, il faut le changer. Est-ce que les notes A à E de mémoire pour la consommation d'énergie, ça a une vraie influence?
Alors oui, parce que ces notes, aujourd'hui que vous trouvez, l'étiquette a beaucoup changé. Hein, d'ailleurs, elle est devenue plus exigeante qu'avant. Avant, par exemple, un réfrigérateur en A, c'était le moins bien noté du marché que vous pouviez trouver. Donc l'étiquette a changé. Et vous avez aujourd'hui, tous les appareils ont été de nouveau reclassés sur une nouvelle étiquette énergie. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup moins d'appareils en A que vous en trouviez il y a quelques années. Mais c'est vrai, ça fonctionne bien mieux, en fait, avec moins d'électricité. La performance de tous les appareils électriques s'est beaucoup améliorée ces dernières années.
Donc, ça vaut le coup de regarder cette balise sur la consommation d'énergie. Et d'ailleurs, pour avoir fait plusieurs chroniques là-dessus, c'est pas toujours beaucoup plus cher, en fait. La différence se situe pas forcément là, je veux dire.
La différence, elle se situe beaucoup sur la taille de l'équipement que vous allez acheter. On a vraiment très envie d'acheter grand. On achète des réfrigérateurs qui sont assez grands, des congélateurs aussi, mais même des télés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une télé de 160 cm, avec la diagonale de 160 cm, va être bien plus consommatrice que des petits téléviseurs. Hein. C'est à peu près l'équivalent de 3-4 petits téléviseurs.
Ah oui,
donc, en fait, plus on achète grand, plus on consomme d'électricité.
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, la taille pour la consommation aussi. Dans certains cas, d'ailleurs, un très vieil équipement peut être un gouffre de consommation. C'est-à-dire, il y a certains équipements anciens qui consomment énormément, non ?
Ils consomment plus, c'est vrai, parce que tous ces appareils se sont nettement améliorés, que les fabricants ont beaucoup amélioré les performances, c'est vrai. Maintenant, on ne va pas non plus pousser à remplacer tous les appareils quand ils fonctionnent encore. Hein. On rappelle quand même qu'il y a aussi un objectif de conservation des ressources.
Bien sûr.
Voilà, fabriquer un nouvel appareil, c'est aussi consommer de l'énergie, des ressources, de l'eau, etc. pour le fabriquer.
Puis c'est une dépense quand on veut racheter, même neuf ou d'occasion, plutôt que de faire durer plus longtemps le sien, effectivement, même s'il consomme un petit peu plus. Pour se rendre compte, Florence Clément, il paraît que suivre sa consommation électrique, c'est un excellent moyen pour changer ses habitudes, se mobiliser. En fait, qu'est-ce qu'il se passe? On se rend compte, enfin, on conscientise.
On se rend compte de certaines journées où il s'est passé quelque chose d'un peu exceptionnel et on se dit « Ah mais oui, en effet, ça a consommé ». Aujourd'hui, vous êtes, je crois, 100%, ça y est, des Français ont un compteur Linky, un compteur intelligent. Peut-être certains n'ont pas un Linky, mais en tout cas, tous les Français ont un compteur intelligent qui leur permet aujourd'hui de regarder leur consommation sur Internet quotidiennement. Donc on voit les pics de consommation, on voit quand... Sur une journée, par exemple, où on aurait évité tous les gaspillages, eh bien, on peut regarder si on a consommé moins. Et ça peut être très intéressant.
J'avais lu qu'on pouvait aller jusqu'à 15% d'économie en sachant ce qu'on fait. Alors, c'est peut-être des petits panels, je ne sais pas si c'est scientifique, mais tout ça pour dire que le fait de savoir, c'est pouvoir aussi. C'est-à-dire, on va changer des choses.
Alors, c'est sûr que savoir, c'est pouvoir. C'est-à-dire que quand on sait ce qu'il consomme à la maison, on sait comment on peut faire pour économiser. C'est clair, oui.
Alors, comment on fait, vous dites, sur Internet? Si on passe par, notamment, c'est surtout le fournisseur d'énergie, en fait, qui va nous permettre de qui a des outils en ligne, non?
Exactement. Vous avez aujourd'hui reçu une information quand vous êtes avec un fournisseur ou un autre, mais vous avez un lien où vous pouvez consulter votre consommation et oui, vous pouvez facilement y accéder.
Voilà, c'est plus ou moins en temps réel. Oui. Allez sur votre compte en ligne, quel que soit le fournisseur chez lequel vous êtes, et ça vous permettra donc de suivre cette consommation. Il y a des applications aussi qui peuvent faciliter cela. Alors, pour faire des économies, il y a aussi la solution veille des offres disponibles sur le marché d'ailleurs, parce que maintenant on peut changer de fournisseur en quelques clics, c'est devenu très simple et on risque pas d'avoir la lumière éteinte. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Vous habitez en Dordogne, bienvenue, vous avez pris une habitude vous, tous les 1 à 2 ans vous changez de fournisseur, en tout cas vous faites une veille concurrentielle.
Mais c'est exactement ça, j'ai pris l'habitude d'aller comparer sur Internet. On a cet avantage maintenant d'avoir des compteurs qui sont connectés et donc on peut suivre assez facilement nos consommations, on peut accéder facilement aux tarifs des fournisseurs. Donc j'ai pris cette habitude d'aller comparer pour essayer de trouver toujours le moins cher.
Et là récemment vous avez changé avec de vraies économies à la clé, enfin c'est palpable, c'est pas le micro détail, on parle pas de 1 ou 2 euros par mois quoi.
Alors, c'est ça en fait. Si c'était pour économiser 1 euro, ça pourrait être un peu fastidieux. Quand on économise 20 ou 30 euros par mois, ça commence à compter. Moi, c'est ce que j'ai fait assez récemment. Effectivement, j'ai réussi à trouver l'abonnement le moins cher qui m'a fait économiser presque 30 euros sur la mensualité. Donc, c'est sur l'année, ça compte.
Sur l'année, ça fait un peu 360 euros quand même. On fait beaucoup de choses avec 360 euros, notamment des courses et plein de trucs. Juste une question, parce que ça, c'est souvent une crainte, j'ai lu des sondages qu'ont les Français, c'est notamment le médiateur national de l'énergie qui travaille sur ces sujets, c'est la peur de la coupure. On se dit, oh là là, si je change de fournisseur, je vais me retrouver à m'éclairer à la bougie. Non, ça se passe pas comme ça.
Ça se passe jamais comme ça. Moi, j'avoue que j'ai changé de fournisseur quasiment tous les ans sur les peut-être 5-6 dernières années. Et effectivement, il n'y a jamais de coupure. On croit toujours que c'est quelque chose de fastidieux. Mais en fait, les fournisseurs s'occupent pour vous à la fois de résilier sans frais chez votre ancien fournisseur et en même temps de mettre en place le nouvel abonnement. On reçoit en fait juste un SMS en nous disant que le nouvel abonnement sera effectif tel jour à telle heure. Mais effectivement, on sent rien. La seule chose qu'on sent, c'est à la fin du mois, la mensualité qui baisse. Donc, c'est pas... Non, franchement, c'est très, très facile. J'ai beaucoup discuté avec des gens autour de moi qui pensent faussement que c'est long, c'est compliqué, c'est pas possible, je suis engagé, etc. Mais en fait, foncez, quoi. Foncez, il n'y a pas de problème.
Bon, là, Valentin, vous êtes un ambassadeur du consommateur actif. Merci pour ce témoignage parce que je pense que ça va donner des idées. Ça rassure aussi un peu toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci, Valentin.
Avec plaisir, merci beaucoup, bon courage.
À bientôt, j'en profite aussi pour vous rappeler, chers auditeurs d'ici, on est là pour vous aider avec ce mail pour nous écrire, on attend vos questions, vous voulez participer à l'émission, vous avez des idées, des suggestions, vous voulez nous engueuler aussi parce qu'on a fait un truc pas bien selon vous, n'hésitez pas, mon mail c'est parici.les.economies@radiofrance.com. Florence Clément, vous êtes responsable de la mobilisation grand public à l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. J'aimerais qu'on commence à parler chauffage maintenant et déjà du chauffe-eau. Quand on a un appareil classique, il paraît qu'on peut régler la température et ça compte.
Alors, on peut, sur certains, assez facilement, sur d'autres, c'est plus compliqué. Okay. Tous les chauffe-eau, vous n'arrivez pas à accéder à la température de la même manière. Certains, une petite molette, où vous pouvez
c'est
régler. Je rappelle que la température conseillée, c'est 55 degrés. Ça sert à rien de chauffer plus, mais il ne faut pas chauffer peu non plus, parce que sinon, ce sont des bactéries qui peuvent se développer dans le chauffe-eau. Donc, il faut faire attention. Alors, essayez pour vérifier la température, c'est pas toujours simple, mais essayez de la vérifier avec un thermomètre de temps en temps à la sortie du robinet. Comme ça, vous saurez à peu près à quelle température est votre chauffe-eau. Voilà, et 55 degrés, c'est bien.
Ici, avec Valère Coréard,
par ici les économies.
En version magazine, le thème aujourd'hui, comment faire des économies d'électricité. Florence Clément, vous êtes responsable de la mobilisation grand public à l'ADEME. Et Sylvain Lefaller, directeur et cofondateur d'Elowatt, vient de nous rejoindre. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Comment pouvez-vous nous aider à faire des économies alors, puisque c'est votre promesse?
Tout à fait. Donc la première chose à faire pour faire des économies, c'est déjà de se demander qu'est-ce qu'on consomme et pourquoi. Et c'est le bon moment pour se le demander, parce que là, on arrive dans la période hivernale. Et typiquement, dans une maison, plus de la moitié de la consommation, ça va être le chauffage.
Quand on se chauffe à l'électrique
ou au gaz, d'ailleurs. Ouais, au gaz, sur une maison, plus de la moitié de la consommation, Donc c'est vraiment là qu'il faut faire des économies. Alors ce qu'on propose, et c'est utilisé déjà par plus d'1,5 million de personnes de téléchargement, c'est l'application Eloat qui permet de suivre, de comprendre sa consommation d'énergie et de savoir ce qu'on peut faire pour la réduire. Donc c'est gratuit, ça fonctionne avec tous les fournisseurs d'énergie parce que c'est fondé sur les données des compteurs communicants Linky et Gaspar. Alors, quels sont les principaux gestes qui fonctionnent le plus? Il y en a un premier qui est déjà de suivre sa consommation. On voit que le simple fait d'utiliser l'application, les gens font plus attention et en fait réduisent leur consommation de 15%, ce qui est vraiment très significatif.
Ah ben voilà, c'est de chez vous que j'ai trouvé ce chiffre, 15%, j'en parlais tout à l'heure. Donc avec vous, on peut suivre effectivement la consommation plus en détail, vous donner des petits conseils aussi, et vous essayez un peu de coacher le consommateur, et ça c'est vachement bien, et puis c'est gratuit. Vous avez aussi en ligne un comparateur électricité et gaz, hein. C'est fait en toute indépendance ça?
Oui, tout à fait. Il y a aussi, donc c'est accessible dans l'application ou en ligne, comme on veut, un comparateur de l'ensemble des fournisseurs d'énergie. C'est une autre façon de réduire sa facture, soit on réduit sa consommation, soit on réduit le prix. Et on compare de toute façon tous les fournisseurs sur le marché, ils sont tous comparés. Et donc on peut choisir celui qui est le plus intéressant pour son logement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec l'application, c'est que une fois qu'on a renseigné son contrat ou qu'on a choisi un contrat, si jamais il y a des prix qui augmentent ou il y a des nouvelles offres et qu'en fait notre contrat il est plus intéressant ou plus tant que ça après 1 an, 2 ans ou 3 ans, eh bien on peut le voir directement, être prévenu et donc s'assurer en fait d'avoir un contrat compétitif intéressant, pas juste une fois mais pour toujours, quoi.
Ouais, ça c'est vrai que c'est très bien. Ça me faisait penser aux alertes petits prix de la SNCF. Vous faites des alertes sur les petits prix des contrats d'énergie.
Oui, tout à fait. Et okay. On fait aussi avec l'application des alertes sur la partie consommation. Si jamais on est en train de surconsommer, on a des grosses consommations de chauffage, eh bien on peut aussi être prévenu et averti.
Ok, eh bien c'est hyper clair. Tout se passe sur elowatt.fr. Merci Sylvain Lefaller, vous êtes directeur et cofondateur de cette société. Merci beaucoup pour votre intervention. Florence Clément, responsable de la mobilisation grand public à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Rapidement, le chauffage. Quand on est à l'électrique, puisqu'on parle d'électricité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ?
Il faut déjà vérifier que notre chauffage est quand même de bonne qualité, c'est-à-dire que misez plutôt sur un rayonnant plutôt que sur un chauffage qui vous envoie de l'air chaud dans la maison. On sait qu'au niveau confort, c'est pas terrible.
Si on peut le changer.
Si on peut le changer. Faites aussi attention à bien dégager les radiateurs parce que si vous placez un meuble devant un radiateur, vous allez beaucoup chauffer votre fauteuil ou la commode, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de chaleur chez vous.
Donc, moi, j'ai les rideaux des enfants devant
Très, très mauvaise idée. Bah oui. Très mauvaise idée parce qu'en fait, vous empêchez la chaleur de rayonner dans la pièce, donc vous chauffez le rideau, mais voilà.
Est-ce que c'est vrai que si on baisse d'un degré, on économise 7%?
Oui, c'est une estimation, en effet, qui a été proposée par l'ADEME depuis bien des années.
C'est vraiment énorme, 7%. Florence Clément, donc, vous êtes responsable de la mobilisation grand public à l'ADEME. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on se prête au jeu du quiz pour finir avec les idées claires sur ce thème. Et ça va vous permettre d'affiner certains points, j'en suis sûr. Simplement, sur l'électricité et notamment le chauffe-eau. Tout à l'heure, on en a parlé. Est-ce que c'est vrai que si on part plus de 2 jours, 3 jours, on le coupe?
Oui, si vous partez sur une longue période, ça ne sert à rien de chauffer l'eau tous les jours alors que vous n'en aurez pas l'utilité.
Les programmes éco d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle ne changent rien, on consomme autant. Vrai ou faux?
C'est faux.
Les appareils en veille pèsent jusqu'à 10% de notre facture d'électricité.
Jusqu'à 10%, on l'a vu, oui.
Bien s'isoler à la maison, c'est un truc de riche?
C'est pas forcément un truc de riche, il y a énormément d'aides qui sont disponibles, mais il faut juste prendre le temps de bien se renseigner et de savoir ce qui est prioritaire comme travaux à la maison.
Suivre sa consommation électrique aide à faire des économies.
Ah ben oui, c'est vrai, quand on sait ce qu'on consomme, eh bien tout à coup, des choses s'éclairent et on sait ce qu'il faut faire.
Florence Clément, merci beaucoup pour vos éclairages et j'espère que vous y voyez plus clair, vous qui nous avez écoutés sur votre radio locale ici. Alors pour écouter toute l'émission, la partager avec vos proches, ça se passe sur ici.fr. La semaine prochaine, on va voir comment maîtriser le budget obsèque. À suivre, des infos près de chez vous et votre après-midi en musique sur votre radio locale ici.